Salut les smarts et salut les marques et welcome to Catch Up, le podcast officiel des Cahiers du Catch qui chaque semaine pour vous regarde, résume et analyse les shows de la WWE. Je suis l'amiral Armbar et aujourd'hui pour parler du NXT TakeOver Brooklyn 3ème du nom, je suis accompagné et bien ma foi du taulier du supplément SmackDown, à savoir IRM. Salut IRM.
Salut l'amiral.
Et aussi accompagné du spécialiste de notre rédaction de tout ce qui est les indies, Ringside. Comment ça va, Ringside?
Ça va bien, salut Amira, salut IRM, salut tout le monde.
On va en avoir besoin de l'expert des indies aujourd'hui.
Oh oui, vous allez voir ça. Alors déjà, avant de commencer de parler du show, est-ce que comme moi les gars, vous avez tendance depuis un petit moment à presque plus attendre TakeOver que le gros pay-per-view qui vient après de la WWE, à savoir la SummerSlam. Donc les TakeOver, hein, c'est tous les... Il y en a 4 dans l'année, juste avant SummerSlam, avant les Survivor Series, avant WrestleMania et avant le Royal Rumble. Et moi j'attends ça limite plus que le reste. Est-ce que c'est votre cas aussi ou pas?
J'en sais rien, pour moi c'est un tout, c'est un ensemble que je ne peux séparer, voilà, c'est le week-end WrestleMania, maintenant on a le week-end SummerSlam, donc ouais, bah, évidemment qu'on est impatient parce que c'est la garantie qualité à tous les coups, on aura tout le temps d'en reparler, mais ouais, en tout cas j'étais assez impatient même si j'avais pas trop suivi les derniers, enfin les weekly, et malgré tout j'étais quand même chaud, donc ça en dit pas mal je pense.
Ouais, TakeOver, c'est toujours très attendu, même si effectivement les weekly, même si on suit ça d'un œil distrait, la qualité a toujours été au rendez-vous pour les TakeOver, donc effectivement, on a tendance à, alors peut-être pas attendre plus que le main roster, mais au moins on est sûr qu'on va pas être déçu et on va voir ce soir si on a été déçu ou pas.
C'est ce qu'on va avoir, donc gros show, hein, parce qu'NXT, généralement, c'est dans la petite salle de la Full Sail University. Pour les TakeOver, bah, c'est des salles plus grosses, hein, de la taille d'un Weekly, d'un Raw ou d'un SmackDown. Donc là, grosse rampe avec les LED, bref, tout ce qu'on connaît sur Raw et SmackDown. Mais sur NXT, ça fait une différence et dessus, ça fait une proportion, une dimension gigantesque, exceptionnelle, qui rajoute à l'excitation. Et ce soir, l'excitation, on va en avoir, puisqu'on commence avec un match. C'est Johnny Gargano contre Andrade Cien Almas. Donc c'est un match intéressant au niveau du booking, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi le Weeks in NXT, je vais faire un résumé très rapide. C'est deux stars qui se réinventent un peu. D'un côté, on a Andrade Cien Almas, qui est un heel, qui n'a jamais connu vraiment de succès, qui préférait faire la teuf avec des bimbos en boîte après NXT, jusqu'à l'arrivée d'une amie à lui, donc Zelina Vega, qui est une ancienne knockout, donc une catcheuse à TNA, et accessoirement petite amie aussi d'Austin Harris, qui vient le voir pour un peu le reprendre en main afin qu'il gagne des matchs. Et oui, c'est la petite amie d'Austin Harris. Et depuis, donc du coup, il y a eu quelques petites victoires du côté d'NXT. Et face à lui, donc Johnny Gargano, ex-membre de DIY, ceux qui ont fait peut-être les meilleurs matchs en tag team l'année dernière, que ce soit contre Revival ou contre Authors of Pain, les actuels champions, et face à leur dernier échec de reprendre les titres contre les Golgoths, eh bien, ma foi, Ciampa a rappelé pourquoi c'était Psycho Killer son pseudo, et il a comment pété un plomb et a défoncé la gueule de Johnny Gargano, qui revient du coup en single. Et il cherchait un match pour TakeOver, Andrade Cien Almas et son adversaire, donc deux stars qui se reconstruisent, qui essaient d'avoir un nouvel élan, et on va dire que le public était quand même assez à fond pour ce match, surtout derrière Johnny Gargano, appelé Johnny Wrestling, qui est quand même un gros favori de la foule. Donc s'ensuit à ça un opener d'à peu près 13 minutes et quelques, qui est peut-être un show stealer de la soirée, puisque les deux se sont donnés, mais vraiment à cœur joie, et pour nous aussi, c'était vraiment la fête. Donc il y avait des séquences qui étaient juste absolument folles, notamment Almas qui en début de match fait toujours sa pose un peu genre je pose entre les cordes du ring, et Gargano qui essaie de l'attaquer, et finalement Almas lui fait un triangle armbar avec la corde, donc ça c'était plutôt bien foutu. Après il y avait des échanges de coups super violents et ça a réveillé un peu Johnny Gargano qui a fait son roundhouse kick sur le sol avec derrière son spear, son slingshot spear à travers les cordes pour essayer de faire effectivement le compte de 3, mais c'était qu'un compte de 2. Gargano qui envoie Almas dans les cordes, où il fait encore sa pose de poseur. Mais là, Johnny Gargano lui met un super kick dans la bouche et qui fait un suicide dive à travers les cordes. Puis il reprend Almas pour le mettre sur le ring. Et là, Gargano fait un slingshot DDT sur Almas pour un compte de 2 qui était presque à couper le souffle. Bref, des échanges comme ça, il y en avait eu à toute vitesse tout le long du match. Sur la fin, parce que ce match, il faut le regarder, sur la fin, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Almas qui essaie encore une fois de travailler sur le bras blessé de Johnny Gargano, qui lui met un super kick, deux fois un super kick à Almas, qui ensuite chope Andrade pour le lancer contre le petit coin du ring. C'était presque un snake eyes lancé finalement qui lui a fait Gargano. Gargano est à ça de gagner, mais la manager d'Andrade lance sur Johnny Gargano un t-shirt. C'est un t-shirt de son ancienne équipe, DIY. Psychologie, Johnny Gargano est en doute. Il n'en faut pas plus pour qu'Andrade Cien Almas le récupère façon Hammerlock DDT et remporte la victoire de façon surprenante. Quel opener, qu'est-ce que vous en avez pensé ringside?
Ah bah ça a mis la barre très haut hein, tout de suite. Moi je suis à fond derrière Johnny Gargano. Pour moi c'est un potentiel main eventer. Il est du calibre d'un Daniel Bryan. Babyface qui fonctionne à merveille. Andrade, je ne sais pas trop où ils veulent aller avec lui. Apparemment ça travaille avec sa manageuse. Du coup, je ne sais pas s'il va pouvoir lâcher son personnage qu'il avait un peu au Mexique, là, de Los Ingobernables, les ingouvernables du Mexique qui font quand même des heals qui sont sacrément efficaces. Mais bon, ils partent sur un autre truc. Mais du coup, c'est vraiment bien booké sur ce match-là. Le finish, du coup, cette gonzesse, là, cette manageuse, elle sert à quelque chose. Elle agit intelligemment. C'est la petite diversion qu'il faut pour qu'Andrade gagne le match parce qu'on... On était à la force égale hein. Entre les deux. C'était, ouais. C'était vraiment très, très,
très disputé.
Très disputé, exactement. Et du coup, voilà, la victoire d'Andrade, il en avait besoin. Gargano, il est en pleine reconstruction. Il peut se permettre de se manger cette défaite. De toute façon, il a la poisse en ce moment. Et puis, on voit que ça le travaille encore, cette histoire de DIY. Donc, tout ça, c'était très intelligent. C'était excellent dans le ring. Gargano, même quand il fait un headlock, il est fun à regarder. donc, voilà, il n'y avait rien à acheter. Ça a mis la barre très haut. C'est vraiment un opener de feu.
Ouais. Voilà. Comme tu dis, ça marche vraiment bien avec la foule. D'ailleurs, il y avait un peu la Gargano section, hein, tous avec un petit carton avec le smiley de Jim Gargano. Il y avait vraiment une masse. Hein. C'était presque autant que la Cesaro section. Alors, est-ce que toi, Yerem, t'as autant apprécié cet opener que Ringside et moi?
Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. D'ailleurs, des sections, il y en aura plusieurs hein, ce soir-là. Ouais. J'imagine
le mec qui était bien chaud.
C'est la mode.
Avec ses ramettes de papier, le mec qui débarque à chaque fois. Moi, je vous propose une chose. Qu'on renomme ce pay-per-view Takeover Gargano.
Voilà. Parce que on a un fan.
C'est pas mal, hein. Parce que le mec, que ce soit avec les matchs tag team dont tu as parlé, et celui-ci, là, qui est juste, probablement, enfin, c'est la meilleure façon de chauffer le public. Tu dis qu'on a été surpris. C'est vrai que les pronostics, j'avais un petit peu chauffé, là, sur le compte Twitter, Catch-up CDC. J'ai mis un peu les pronos. Ouais. C'est vrai que Gargano partait vainqueur, mais c'était trop évident finalement. Et tu l'as bien noté, Ringside, il a un potentiel un peu à la Daniel Bryan. J'espère plus à Daniel Bryan qu'à la Sami Zayn, qui fait que il faut le faire perdre, douter. Et c'est vrai que son histoire avec Ciampa, elle est tellement incroyable que ça aurait été dommage de pas continuer à l'employer malgré son absence. Et qui agit tel un fantôme. Hein,
c'est exactement ça, c'est un vautom du passé, hein, parce que Ciampa est blessé, c'est pour ça notamment qu'il n'est pas là. Ouais. Et c'est vrai qu'il capitalise encore sur cette histoire sans qu'il soit là, en faisant intervenir la manager, mais intelligemment, comme l'a dit effectivement Ringside, juste en jetant un t-shirt, c'est propre, c'est dans les règles.
Franchement,
les deux
là,
hommes paraissent très forts.
Ouais. C'est vraiment ce style de résultat qui profite aux deux, même si effectivement, pour Almas, enfin, on commence seulement à voir à peu près ce qu'ils veulent faire avec lui. On sent qu'ils commencent vraiment à tenir son personnage. Je pense qu'il a un potentiel de heal très bon. Super façon de commencer le show.
Ouais, c'est clair. Alors après, est-ce que, parce qu'on sent bien que tu es fan de Gargano, hein, ce takeover Gargano, est-ce que Gargano un jour ira à SmackDown ou à Raw, on ne sait pas. Dans tous les cas,
il ne faut jamais souhaiter de mal au catcheur de NXT.
Ouais.
Le mieux, c'est de ne pas monter du tout.
Malheureusement, juste après ce match, on aurait vu donc des carrés VIP, ces espèces de box, luxury box, comme les États-Unis, où les gens sont assis dans des canapés, et on y voit du coup les general managers, donc Kurt Angle pour Raw et Daniel Bryan pour SmackDown, avec donc des stars d'NXT. Et donc, les deux general managers regardent assidûment le show, le takeover, et ça nous laisse peut-être supposer qu'ils vont faire des acquisitions prochainement, puisqu'on murmure un espèce de shake-up bientôt, après SummerSlam, donc peut-être qu'il y aura des acquisitions chez NXT, on verra bien qui. mystère. Mais comme tu dis, parfois ça ne marche pas bien, parfois ça marche bien, mais c'est toujours un peu risqué. Hein.
D'ailleurs, bah,
si nous regarde Teddy Linger, le dernier en date à s'être craché dans le méandre du main roster, hein. T'allais dire inside, ouais.
J'ai dit, il y avait Roderick Strong aux côtés de Kurt Angle. Donc ouais. Ça, je pense qu'on va aller du coup vers un Roderick Strong à Raw. Et il y avait les deux gonzesses, les deux australiennes
Iconic
à côté
duo.
De Daniel Bryan, néo-zélandaise.
Peyton Ross et Billy Kay.
J'ai envie de dire inside qu'on reparle de ça et de Roderick Strong à la fin de du main event, ok?
C'est
parce que
bon.
J'ai une petite idée là-dessus, il y a une petite idée qui part là-dessus. En attendant, on passe au tag team division et pour garnir la télé commentateur, eh bien, c'est le retour de Corey Graves hein, qui a été très longtemps annonceur pour NXT, notamment qui a été anciennement tag team champion avec Neville. Donc du coup, il vient pour commenter ce match et ce match, c'est donc les champions, les Authors of Pain avec leur manager Paul Ellering contre Sanity, la faction chaotique menée par Eric Young avec donc effectivement Alexander Wolf et Killian Dane qui sont annoncés pour le match et bien sûr leur acolyte film. Féminine complètement tarée, Nikki Cross. Donc, c'est effectivement Killian Dane et Alexander Wolf pour Sanity contre les deux bêtes d'Author of Pain. Le match n'a pas commencé que les Author of Pain chargent dans le ring et commencent à bastonner à tout va. Et en fait, il y a Eric Young qui commence à installer une table. Hein. Le match n'a pas commencé, il y a déjà une table de sortie. C'est le bordel en 2 secondes 2. Et donc, du coup, le match commence quand il y a des... Alexander Wolf qui fait un tag pour Killian Dane, mais à ce moment-là, Eric Young monte sur le ring, regarde Dane, lui fait « Tu descends, c'est moi qui fais le match ». Apparemment, c'était ça la stratégie joker qu'avait Eric Young dans la main. Et donc, c'est Eric Young qui va combattre pour Sanity. Donc, du coup, on a Akam, donc des Hatter of Pain, Eric Young qui sont dans le ring. Akam qui fait un back body drop d'Eric Young dans les bras de son poteau, hein, Rezar, qui tourne ça en Dominator. C'était assez impressionnant comme spot. On a aussi, bien sûr, du double team des Hatter of Pain sur Eric Young encore
de son poteau,
avec
hein,
Rezar
Slam
qui tombe en Dominator. Deux mastodontes, pour ceux qui les ont jamais vus cacher ensemble, arrivent à faire des combinaisons assez impressionnantes et super fluides. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Et là on a Sanity qui est un peu dans la position du babyface puisqu'Eric Young essaie de faire un hot tag sur son compadre donc Alexander Wolf. Un peu plus tard, Rezar qui essaie de faire un avalanche splash dans le coin, mais Eric Young arrive à esquiver et faire finalement le tag sur Alexander Wolf qui décide en fait que ce soir Alexander Wolf il est le maire de Suplex City puisqu'il fait des suplesses aux deux membres d'Author of Pain. Et quand on voit le gabarit, c'est assez impressionnant. Donc ça se tabasse dans tous les sens jusqu'à un moment assez intéressant où les Author of Pain essaient de faire un Tower of Doom sur Eric Young, mais Nikki Cross, donc la fille des Sanity, arrive et agrippe les jambes d'Eric Young, ce qui fait que finalement les Author of Pain se font une suplex entre deux. C'est la confusion. Et tout ça nous amène au moment où forcément, plus tard, Nikki Cross revient dans le ring, essaie de s'opposer à Paul Ellering. Il y a un des Author of Pain qui voit ça, et Nikki Cross qui fait un body slam à l'extérieur du ring, le mastodonte la chope en plein vol normal, mais c'est sans compter contre la bête de Belfast, donc Killian Dane, qui fonce et fait un body slam à travers la table en compressant Nikki Cross entre lui et l'Author of Pain. Je sais pas comment ça est sorti sans avoir 3 côtes cassées, mais c'était super impressionnant. Et dans le ring, pendant ce temps-là, eh bien, du coup, Eric Young et Alexander Wolf font effectivement un back suplex Nebreaker combo et deviennent ceux qui rompent l'invincibilité des Author of Pain et les nouveaux tag team champions grâce à toute cette confusion. Donc, la stratégie chaotique d'Eric Young a marché. Il célèbre, bien sûr, dans la joie alors que Paul Ellering fait la tronche. Mais la célébration dure pas très longtemps puisque deux personnes arrivent dans le ring et commencent à passer à tabac tout ce qui passe. Sanity d'abord, puis The Author of Pain. Ce sont deux arrivées récentes à NXT, à savoir Bobby Fish et Kyle O'Reilly, qui sont, et là je vais passer la parole à notre expert indépendant ringside, qui sont les Red Dragon, une tag team qui a été champion pendant très longtemps dans le Ring of Honor, qui mettent toute la division tag team de NXT à la page, disant on est là et on va prendre les titres. Ringside, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Et si tu peux nous parler un peu donc, de ces Red Dragon qui viennent s'insérer dans la tag team division.
Ces petits cons là.
Ouais. Ah bah les Red Dragon, c'est à peu près ce qui se fait de mieux en matière de tag team dans la division indie. À la Ring of Honor, ils ont fait des matchs qui étaient mémorables. Les deux aussi sont très bons en single. Mais effectivement, c'est très intelligent de les faire s'unir à nouveau et de refaire l'équipe qui a fait les beaux jours de la Ring of Honor notamment. Je vous conseille un match contre les American Wolves à la Ring of Honor, un match pour le championnat ROH qui est absolument fabuleux. Donc ça, bon, c'est énorme surprise. C'est super cool pour un mec comme moi qui regarde la Ring of Honor assez régulièrement. C'est deux catcheurs que j'adore, Bobby Fish et l'ami Kyle O'Reilly. C'est vraiment du bon niveau, du très haut niveau même. Et le match en lui-même, bah, encore une fois, les Authors of Pain qui montrent qu'ils sont au niveau, hein, malgré que ce soit de gros tas de merde comme ça, musculeux, ils font quand même des spots qui sont, qui sont assez phénoménaux. C'est encore très intelligemment booké le match, la victoire de Sanity, elle est vraiment bien montée. Il était temps finalement que les Authors of Pain perdent leur ceinture. Ouais. Contre ce clan Sanity qui marque une grosse victoire avec un chef qui est du coup avec un plan qui fonctionne, donc un chef intelligent. Fait plaisir.
Ça fait longtemps.
Mais intelligent, ça fait longtemps.
Voilà, un des spots monstrueux, le passage avec Nikki Cross là où elle se fait prendre en sandwich, c'était merveilleux. C'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas voilà.
Fabuleux, tu veux dire fabuleux.
C'est ça,
c'était awesome, comme c'est le public a crié pendant de nombreuses secondes après le spot, ouais.
Exact.
Et toi, IRM, ton feeling sur le match.
Je vous propose qu'on renomme le pay-per-view Takeover Nikki Cross.
Non, mais tu vas pas nous faire le même truc à chaque match.
Non, merde. Non, j'avais prévu de faire un running gag, mais seulement sur deux fois. D'accord. Tout ça pour dire qu'effectivement, j'ai adoré non seulement le spot de Nikki Cross, mais de toute façon, j'adore la manière qu'ils ont de l'utiliser, qui est superbe. Enfin, c'est vraiment, c'est pour moi, je suis impatient de la sortie de 2K18, puisqu'elle a été annoncée comme étant dans le roster du jeu vidéo. Alors division tag team de NXT, hein, ça, y a pas photo, c'est vraiment le maître étalon de ce qui se fait à la WWE, c'est vraiment eux plutôt la barre, hein, plutôt que les autres rigolos là en kilt, mais j'ai beaucoup aimé le plan de remplacer le gros costaud par le petit rigolo là, même si au début je me suis dit ok, il est un peu bizarre quand même ton plan là de mettre
si
au placard.
Tu peux dire à la limite que comme Killian Dance t'avais pris des coups avant que le match commence, ok, mais il avait pas l'air spécialement mal en point, quoi, donc tu peux dire mais
en fait ça peut être intelligent dans le sens où tu dis ok, mon plan c'est de pas en faire un homme légal, toi, mais de le laisser ringside pour qu'il les tabasse autour du ring, mais il n'a pas trop intervenu finalement à part justement durant ce spot, mais bon, ça a payé,
ça a été décisif,
donc on peut pas le reprocher, mais au début ça a été relevé par un des commentateurs, il s'est dit mais oui. C'est quoi le mec, il envoie le mec le plus costaud au vestiaire, c'est un peu étrange. Alors AOP c'est pareil, hein, AOP c'est appellation origine protégée, donc c'est aussi les Authors of Pain, je pense qu'effectivement ils peuvent être AOP, ça y a pas de souci parce que hein, ils partaient de loin, hein, ces deux gros rigolos qui botchaient, qui blessaient le public en lançant des chaînes dans la tronche, souvenez-vous là ce match, c'est un petit peu voilà.
Moi j'y croyais pas au début effectivement, comme tu dis qu'ils sont arrivés dans NXT, je voyais pas vraiment ce que ça allait apporter cette équipe de gros costauds, et ils ont pris le temps, ils m'ont convaincu, ils ont fait de moi un believer comme on dit, non vraiment cool. Et puis la tag team division effectivement, NXT était l'étalon l'année dernière avec le début de Outer of Pain, avec la grosse feud Revival et DIY. Finalement, Revival est parti à Raw, DIY s'est splitté. Moi, j'avais un peu peur que ça crée du vide, mais finalement, avec Sanity qui s'installe là en champion, et du coup, cette fameuse tag team sortie de Ring of Honor, Red Dragon, on a envie de voir la suite. Hein. Donc vraiment, là-dessus, c'est pareil, c'est bien foutu, quoi. C'est bien booké, rien à dire.
Ouais. Et moi, ça m'a fait penser un petit peu dans une moindre mesure. Après, j'y fais souvent référence, mais la rivalité, en tout cas au début de la rivalité entre le Shield et la Wyatt Family, où t'as finalement deux factions heel, on va dire les plus hautes du moment, qui s'affrontent, et les gens sont dingues parce que rien que quand ils se regardent, parce qu'ils ont un charisme et ça transpire la violence et la folie, donc on a un petit cran en dessous évidemment, mais il y avait ce côté là et finalement je sais pas si on peut parler de face turn, mais pour Sanity, mais ils ont vraiment réussi à emballer la foule, et tu mets vraiment une team over comme ça. Des adversaires assez implacables en face, du hot tag, parce qu'il y avait beaucoup de hot tag hein, du côté de Sanity, de la bravoure et de la folie, tu mets Nikki Cross, un bon tabassage en règle sur les nouveaux champions à la fin du match, Et c'est du face turn instantané. Bon, on ne sait pas s'ils vont continuer comme ça. Je souhaite pas spécialement, parce que l'histoire d'alignement, c'est plus vraiment si important que ça aujourd'hui, mais surtout à NXT. Mais bon, là, ils ont bien embarqué la foule.
Complètement, ouais. Et la foule va continuer à être emballée avec le match suivant. Donc d'ailleurs, pour ce match, Harry, vos commentaires, puisque Corey Graves repart et il est remplacé, il fait un tag avec Jim Ross. Jim Ross qui vient commenter le match qui oppose donc Hideo Itami contre Aleister Black. Donc un match, comme le dira Jim Ross, qui va être le paradis du coup de pied dans la tête jusqu'à décapitation. Et il s'est pas trompé. Donc il y a Aleister Black qui a une entrée de grosse superstar, hein, puisqu'il y a le groupe, son groupe à lui, qui chante son morceau, sa musique. Donc Code Orange qui est là. Donc d'ailleurs Code Orange qui avait fait l'ouverture de show avec un morceau au tout début du pay-per-view. Et donc là, ils sont sur scène pour faire effectivement son intro. Donc il y a une intro qui est assez classe, qui plante le personnage mystérieux et dérangeant. Dérangeant et dérangé contre Hideo Itami. Donc là, c'est une baston purement, on va dire, pour l'honneur et d'ego, puisque Hideo Itami, qui a tourné il y a quelques mois, frustré de ses échecs répétés, décide maintenant qu'il réclame le respect de tout le monde, s'est brouillé avec ses potes comme Cassius Ohno. Et à un moment, à NXT, il y a une semaine ou deux, je crois, il était au milieu du ring, il exigeait le respect. Puis il y en avait un qui avait un match et qui n'a pas voulu attendre, c'était Aleister Black. Ils sont confrontés au milieu du ring. Itami qui fait style, bon, c'est bon, je te laisse tranquille, je pars. Finalement, se retourne pour essayer de frapper. Puis Aleister Black qui met son méchant finisher, une espèce de spinning low kick, donc qui s'appelle le Black Mass. Itami qui était étalé, et ceci a mené à un match puisqu'Itami a essayé de l'agresser plus tard à la fin du show. Et donc William Regal, le manager, a booké ce match qui nous vend un peu du rêve. Donc un match de un peu plus de 12 minutes qui a été très 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 violent, énormément de coups, de coups de pied, de coups de poing, des Itami en veux-tu en voilà, avec le public qui a créé des grands wouh en hommage à Ric Flair. On espère prompt rétablissement à lui. Donc très rapidement, Aleister Black saigne du nez de façon assez abondante, hein, parce qu'avec tous les coups qu'il s'envoie, il y en a un qui a dû passer un peu trop près l'arête et ça lui fait saigner du nez, ce qui rajoute finalement à la violence du match visuel, hein, pour le spectacle, c'était vraiment pas mal. Donc il y a Itami qui fait le heel, hein, dans ce match, qui se moque la pose de Aleister Black, donc en tailleur sur la scène, regardez stoïque. Donc là, il y a vraiment un jeu où Itami est clairement dans le mépris de son adversaire. Il y a des passages assez fous aussi où Aleister Black met une série de coups ultra rapides et enchaîne avec un Shining Wizard tonitruant, puis finalement fait un Hanging Standing Lion Salt sur Itami. Il a failli le louper, mais son genou lui a bien atterri dans la gueule. On a pu le voir ralenti, c'est assez impressionnant. Sur la fin du match, ce qui est assez un rythme très très rapide, on a Itami qui veut faire un superplex, mais qui finalement tourne ça en Falcon Arrow depuis la seconde corde. Pour le compte de deux, hein, Aleister Black reste dans le match, qui se relève de manière très menaçante en faisant transpirer, même puer son charisme vraiment très présent. Il prend Itami et il s'enchaîne encore des coups. Aleister Black lui met un coup de pied, un coup de genou sauté, pardon, et Itami est presque dans les vapes. Il réussit quand même à mettre un autre Falcon Arrow. Aleister Black qui s'en sort quand même. Itami qui essaie donc d'annoncer son GTS, mais Aleister Black s'en échappe. Itami qui demande du respect à la foule, qui demande du respect à Aleister Black, va pour donner un coup. Aleister Black esquive, se retourne, boum! Le coup de pied est fini dans la mâchoire. Itami est au tapis. Vainqueur est toujours invaincu à Aleister Black. Bah là, je vais demander du coup à Yerem, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Et qu'est-ce que tu penses d'Aleister Black qui, moi, m'impressionne semaine après semaine. Je suis assez fou. C'est un peu mon chouchou du moment, je dois avouer.
Donc tu disais c'est son groupe à lui.
C'est le groupe qui chante son morceau d'intro, sa musique d'intro.
D'accord. Hein, mais il n'est pas membre du groupe.
Non, il pourrait, il a tout le look pour, hein, il a des pieds à la tête, etc. Il est rasé sur les côtés, cheveux longs au milieu, mais non, c'est pas son groupe, c'est le groupe qui joue son team song.
Ouais, ouais, j'ai kiffé d'ailleurs, hein, vraiment. C'est autre chose, hein, les concerts à NXT, que les concerts à WrestleMania. C'est pas le même genre. Ouais. J'aime beaucoup le nouveau gimmick de Itami, qui est de péter le nez des autres après s'être fait péter le sien. Donc ouais. C'est plutôt sympa.
Ouais, quelques semaines à NXT contre Lonnie Lorgan, un espèce de bastonneur de Boston. Itami s'est fait péter le nez, ils ont arrêté le match et finalement il est revenu plus tard dans le show pour finir le match malgré les cascades de sang qui coulaient. Donc voilà, depuis ce moment, il pète le nez à tout le monde.
Le bastonneur de Boston, c'est plutôt bien trouvé. Bravo, Amiral. Ouais. Et puis aussi, ouais, il y avait vraiment une. un sentiment d'urgence dès le départ, hein, parce que les mecs, ils étaient dans les starting blocks pour se foncer dessus, ils sont foncés dessus dès le début, là, qu'ils sont mis le coup de pied chacun dans la tronche, là, c'était assez impressionnant. Bon, bah, tout le match, t'en as très bien parlé. Moi, j'ai adoré également la violence, hein, qu'il y avait derrière, enfin derrière, devant, sur les côtés, partout. Ce qui est le plus un peu doux amer dans tout ça, c'est que bah, ce match hyper violent à base de coups de pied dans la tronche qui font saigner, c'était sous les yeux du King of Strong Style, puisque il y avait Shinsuke Nakamura qui était là, qui est devenu lui le King of Soft Style, hein, évidemment, dans son passage au main roster. Donc voilà, ça c'est un petit peu triste. C'est regarde papy.
C'est vrai qu'il y avait du beau monde encore auprès du ring. On nous a montré juste avant ce match-là, tu as bien fait de souligner, donc Shinsuke Nakamura, mais aussi avec Kalisto à côté, Lucha Things Forever, et aussi le roi Neville qui est resté stoïque, qui n'a pas branché d'expression.
C'était énorme.
Avec ses petites lunettes et machin, c'était juste royal, vraiment. Genre, je suis pas content. Ouais, voilà, il y avait du beau monde à ce show. Et toi, ringside, est-ce qu'enfin, avec ce heel turn réussi d'Itami et ce match-là, est-ce qu'enfin on a le match de référence de celui qui se faisait appeler Kenta au Japon? Et qui a une carrière compliquée au début NXT, parce que là, ça y est, il est, on a, quand on regarde NXT, ce qu'il y avait au Japon avec Kenta, qui était l'ancien nom d'Itami.
Ouais, là, on atteint à peu près ce qu'on avait envie de voir avec Itami depuis son arrivée. Effectivement, je valide. Pour Aleister Black, c'est le score parfait, hein, depuis le début. Hein, son arrivée à NXT, c'est une réussite totale du début à la fin. Ça a été plus délicat effectivement pour Itami, mais là il arrive à se positionner en tant que heel revanchard frustré. Il peut continuer comme ça même en enquillant des défaites, c'est pas bien grave. On voit que le public est encore un petit peu mou quand il faut un peu cracher sur Itami, mais il a réussi quand même avec son taunt là, en imitant Aleister Black, à réveiller le public. Et puis après, bon, le match était tellement intense que voilà, le public a été emmené. Il n'y a pas grand chose à jeter, hein. Y a des enchaînements de kicks dans tous les sens. Donc, encore une fois, très beau match. Et voilà, on est content de voir Itami à ce niveau.
Et il a l'air très fort. Là, ce qui est bien en plus, et je pense que le fait que Aleister Black saignait, vraiment, il a lutté comme jamais il a lutté dans un match NXT. Vraiment, ça fait que Itami est ressorti très fort aussi de ce match. Donc là, encore une fois, comme le premier match, hein, Cien Almas contre Gargano. Très beau booking, il y a bien sûr un gagnant, un perdant, mais les deux hommes paraissent extrêmement forts, donc vraiment là c'est super. Et Aleister Black n'a toujours pas prononcé un seul mot depuis qu'il est arrivé à NXT, donc il a un charisme qui déborde. On verra, est-ce qu'il est mauvais en promo ou pas, je sais pas. Mais,
a-t-il la même voix que Brock Lesnar?
Alors, oui, vraiment très fort.
Bienvenue à Super City.
C'est peut-être ça le problème. En tout cas, non, c'était un match, encore une fois, de fou. Ouais. Et encore du beau monde au bord du ring, puisque là, avant ce match, on nous montre qu'il y a Bayley, Sasha Banks et Becky Lynch, hein, trois des Four Horsewomen d'NXT qui sont là pour...
Ils veulent tous forcément être à NXT, hein, ils veulent tous.
On veut revenir. Il y a que Charlotte qui a fait « Non, moi, c'est bon, moi, je me souviens, c'est nickel. Hein, j'ai une streak des pay-per-view, nickel, donc tout va bien. » Donc elles sont là puisqu'on nous annonce évidemment que le prochain match c'est le match de la division féminine d'NXT, et là aussi quel match, ou du moins quelle affiche, puisque donc c'est la championne indétrônable, encore une streak d'invincibilité pour Asuka, qui maintenant il y a plus de 500 et quelques jours qu'elle tient le titre, je crois, enfin un truc de fou, contre donc Ember Moon. Donc pour petite histoire, Ember Moon et Asuka se sont déjà rencontrés lors pour un match pour le titre, et c'est la seule fois où Asuka a dû un peu tricher, puisqu'elle l'avait pris à monter l'arbitre, l'avait balancé sur Ember Moon pour pouvoir la distraire et remporter le match. Suite à ça, Asuka avait blessé Ember Moon, l'éliminant de plusieurs mois de compétition. Là, la Texane est enfin rétablie de retour et a bien sûr droit à un nouveau shot à sa ceinture. Et donc, c'est la revanche. Donc, gros enjeu pour ce match. Beaucoup se demandent si c'est pas le moment où la japonaise, l'impératrice de demain, ne va pas être détrônée. Ça commence là aussi très fort. Grosse domination d'Ember Moon sur le début du match, avec un cannonball dive à l'extérieur du ring sur le sol, ma foi aussi assez impressionnant pour un spot chez ces dames. Donc on voit vraiment que là aussi, pas la Tag Team Division, mais la Women Division à NXT, c'est un autre niveau que ce qu'on voit en ce moment à SmackDown et Raw. Donc là, le match continue sur la blessure d'Ember Moon, hein, à son bras et son épaule. Donc Asuka travaille vraiment là-dessus, en lui mettant de méchants coups, des soumissions à un airlock Castillo. Bref, elle fait que des coups à Asuka pour péter le bras d'Ember Moon. À un moment donné, Asuka, elle prend Ember Moon dans un German suplex qui l'envoie sur le coin du poteau. On a vraiment peur pour elle, mais tout va bien, elle n'a pas l'air blessée. Un peu plus tard, vers la fin du match, hein, qui aura duré quasiment 15 minutes, on a Ember Moon qui va sur la corde supérieure et elle fait son éclipse, hein, donc son espèce de vrille moonsault stunner impressionnant. Elle a toujours gagné ses matchs avec un seul éclipse. Elle tente de tomber et la Asuka, décidément trop forte, brise de tomber. La seule personne qui a résisté à l'éclipse. Ember Moon est déterminé à refaire son éclipse sur Asuka, mais Asuka récupère l'arbitre
ramène chez elle.
Elle se cache avec l'arbitre, l'emmène faire les courses, etc. Plus sérieusement, Ember Moon qui saute effectivement à travers au-dessus de l'arbitre et fait donc un cross body block sur Asuka. Asuka qui tourne et qui fait un tombé en attrapant donc la culotte, le slip d'Ember Moon. Le ref, donc l'arbitre voit ça, donc il arrête le compte. Donc à tricher vu.
Le truc qui n'arrive jamais.
C'est ça, pour une fois, cet arbitre-là était particulièrement efficace. Je ne sais pas où il en chopait, mais gardez-le, il est bien. Donc plus loin,
Ember Moon. Il a l'œil sur la culotte.
Oui, c'est ça.
Attention, un harcèlement sexuel aux États-Unis, ça peut aller très très loin. Donc Ember Moon qui fait un super kick à Asuka en fin de match. Asuka qui, décidément, encore une fois, ne veut jamais abandonner rond le tomber. Asuka, elle a complètement KO, mais elle fait l'opossum, hein, comme ils disent, et comme en terme américain, fait semblant d'être KO. Et elle récupère Ember Moon dans un armbar, qu'elle transforme en Asuka Lock. Elle la tient plusieurs longues secondes, et finalement, Ember Moon abandonne. Et donc, Asuka est toujours championne. Qui pour détrôner Asuka? Quel est l'avenir? Qu'est-ce qu'elle peut encore faire? Qui sait qu'elle peut encore battre? Yeren.
Alors, donc Asuka a battu Goldberg.
Oui, pas dans un match, je précise, hein, pour toi qui n'as pas vu NXT, il n'y a pas vu un match à NXT Asuka contre Goldberg, même si je pense que Goldberg aurait perdu, l'a battu dans la streak de champion. Ouais.
Donc déjà, tu bats pas Goldberg. Alors battre celle qui a battu Goldberg... c'est un peu compliqué, donc finalement on en parlait juste avant le live, voilà, j'ai l'impression qu'elle est partie pour faire tomber le record ultime qui est de 10 ans là de championne féminine. Sinon il faut ce qu'il faudrait faire, c'est, vous en avez parlé je crois, Talking Catch avec la section sur le tournoi féminin là, il faudrait peut-être la créer, hein, cette seconde ceinture féminine, parce que et puis celle-ci on la renomme Asuka Championship, mm-hmm. Et puis on laisse
on la neutralise
et puis voilà, on fait un spin-off quoi, hein, on fait un spin-off de la division féminine où il y aurait tout le monde sauf Asuka, ou alors l'inverse, juste Asuka. Bon, blague à part, le match était vraiment. Enfin, c'est pas que j'avais un petit peu peur, mais bon, c'était au-delà de mes espérances en tout cas. La qualité de ce match, vraiment là, elles ont sorti le grand jeu. Et beaucoup de, pareil, hein, beaucoup d'impact, beaucoup de violence.
Ah ouais.
Elles se sont vraiment mises sur la tronche. Des séquences là, enfin, t'en prenais plein la tronche. Concernant le résultat, j'en sais trop rien. Ils en font vraiment quelque chose là, hein, parce que ils avaient quand même construit. Ils avaient construit la catcheuse idéale pour la faire tomber. C'était clairement celle qui allait la faire tomber à Asuka. Et finalement non. Et là c'est vraiment de façon clean, parce que quand bien même elle a tenté un petit peu encore de gruger, cette fois-ci elle s'est fait prendre par la police. Donc c'était compliqué de lui reprocher ça. Je ne sais pas ce qui va se passer, s'il va avoir une troisième manche ou pas. C'est pas impossible, mais là, on se retrouve face au vide, l'inconnu, quoi.
Ouais. Sachant que Asuka a déclaré dans une interview, on lui a demandé alors comment vous sentez ce takeover. Donc bien sûr, avant le takeover, elle a fait, c'est simple, je vais battre Ember Moon, garder mon titre, et puis après, je vais garder mon titre et partir à Raw et SmackDown pour choper notre ceinture, parce que voilà. Parce que je peux le faire, quoi.
Ouais.
Et toi, ringside?
J'espérais tellement une victoire d'Ember Moon. Mais malheureusement, Asuka est définitivement imbattable. Très beau match. Faut quand même féliciter Ember Moon qui reste charismatique. Malgré le nombre de segments où ils ont essayé de tuer complètement son personnage, on a montré dans les vestiaires en jogging alors qu'elle a ce gimmick un petit peu mystique de chasseuse Voilà, donc ouais. C'est pas facile pour elle parce qu'après, je sais pas trop où elle va aller du coup. Hein. Il va falloir la faire monter à Raw parce que après une défaite comme ça, quelle est sa place dans le roster alors que c'est vraiment un talent assez exceptionnel. Hein. Amber Moon, on l'a vu encore là dans ce match. Ouais. C'était absolument incroyable hein, tout ce qu'elle est capable de le faire dans le ring. Et c'est encore une fois très intelligemment booké ce match. Hein, donc,
moi, je me demande s'ils vont pas faire un truc genre prochain NXT, en tout cas qui fait ben voilà, j'ai gagné. Franchement, j'ai plus de compétition ici. Elle prend la ceinture, elle la lâche, elle se casse. Et elle va à Raw SmackDown. Et puis après, ils font un gun-tête match avec tout le locker room. Au mettre des NXT pour une championne, je ne sais pas. Mais je me demande si ce n'est pas ça qui est le mieux finalement à faire pour Asuka. Parce que je ne vois pas qui actuellement dans le roster. Ouais. Même s'il y a des Nikki Cross, des Ruby Riott. Et qu'il va y avoir maintenant bientôt un influx important avec le Mae Young Classic. Où on sait que sur les 32 compétitrices, on va en avoir certaines qui vont débarquer certainement à NXT. Qu'elle aille chercher la compétition ailleurs, faut qu'elle aille se fricoter avec du Charlotte, enfin voilà, c'est
Mais c'est une super, enfin c'est un des très bons scénarios dans le sens où tu envoies quand même dans le main roster quelqu'un qui est intouchable et tu tu n'es même pas obligé de la faire tomber par quelqu'un qui est déjà dans le main roster, mais on peut imaginer très bien après Ember Moon qui reste quelques mois et qui monte un peu plus tard et toujours avec ce truc derrière elle où elle n'aura jamais fait tomber la championne. Oui, non, mais...
Ou alors, ils font un peu comme ils avaient fait avec Kevin Owens quand il était NXT champion, débarquer à Raw pour le Open Challenge John Cena, disant « Hey, moi, j'ai une vraie ceinture, je veux pas la tienne, mais je vais de la misère. » Et ça permet de le lancer. Donc, peut-être qu'elle peut faire ça aussi pour aller défier une tenante du titre à SmackDown ou à Raw. Enfin, dans tous les cas, pareil, j'aurais parié sur la victoire d'Amber Moon. J'aurais parié tout mon pognon, mais je me serais bien planté. Décidément, elle ne tombe pas, cette Asuka. Et en parlant de Kevin Owens, bah, lui aussi était ringside hein, avec Samoa Joe. Donc, encore énormément de beau monde hein, autour de ce ring. Donc, deux anciens champions de la NXT. C'est pour annoncer, bien entendu, eh bien, le dernier match de la soirée. Donc, Bobby Roode, le glorious champion de NXT contre le challenger Drew McIntyre qui revient après de longues années dans les indies, revient à WWE par la grande porte. Donc là, un match où ça s'oppose deux choses. Le champion Hill qui dit c'est mon NXT, celui du pognon, des strass et paillettes pour les PDG, etc. Versus Drew McIntyre qui dit non, c'est notre NXT et c'est pas le tien. Donc là, on a un combat entre deux anciens champions poids lourds de la TNA pour le titre NXT. Hein. On en a déjà eu hein, des champions poids lourds de TNA, mais c'est la première fois, je crois, qu'on a deux qui s'affrontent pour le titre suprême à NXT. Et Drew McIntyre qui a une entrée de superstar lui aussi, puisque donc il y a les tambours et les cornemuses de la police de New York en fait qui sont là pour jouer l'intro de sa team song très écossaise. Hein. Et j'avoue que ça pète un peu la classe quand même. Vraiment là aussi. Ça envoie du lourd, ce côté un peu live music qu'il y a sur les arrivées. Bobby Roode, lui, a son entrée, on va dire presque normale, mais qui est déjà de base tellement over, abusé que ça marche très bien. Donc là, voilà, c'est deux mastodontes hein, qui s'affrontent. Les deux ont des gabarits, j'ai plus leur taille ni rien et leur poids, mais c'est deux énormes costauds, très classiques. On est vraiment sur du catch américain, de gros big bandom en slip et en genouillère et bottes. Et donc, on a le match qui... j'ai l'image qui freeze, est-ce que c'est normal? Oui. Vous m'entendez toujours
hein? Oui, continue, l'amiral.
Ah, parfait. Très bien. Pardon.
Nous te recevons.
Je me suis dit, ça y est, il y a un hack. Donc, le match explose. On a une grosse séquence où, dès le début, en fait, hein, Bobby Roode est en position de faire son finisher, le Glorious DDT, mais McIntyre s'échappe. D'ailleurs, on peut souligner le côté jeu un peu sympa de Bobby Roode qui fait « Yes, c'est bon, je l'ai !» Mais non, faut pas croire. Le match va pas se finir en 5 minutes hein, puisque le match durera presque 23 minutes, donc un gros long match. Donc on a un peu plus tard donc Bobby Roode qui attrape donc McIntyre avec un swinging neckbreaker à travers les cordes hein, donc McIntyre se prend les cordes au niveau du cou, c'est tombe donc à l'extérieur, Bobby Roode qui saute et fait un blockbuster à l'extérieur là aussi et puis il retourne dans le ring, Roode est en plein contrôle, c'est son match et il fait son Roode Awakening neckbreaker et seulement pour un compte de deux, donc là une grosse séquence très très bien enchaînée. Plus tard on aura McIntyre qui se vengera en ferant un white nose hein, la prise de Sheamus où on prend le mec sous le bras puis on le smash contre le sol, bien que Moreau dit que McIntyre appelle ça la Celtic Cross. Donc peut-être qu'un jour il y aura un combat sur ce move entre Sheamus qui dit que c'est White Nose et McIntyre qui appelle ça un safety cross, on ne sait pas. Et enfin, sur la fin de match, puisque le match est assez violent, avec un rythme assez lent vers le milieu, d'ailleurs le public commence un peu à s'endormir par rapport aux quatre matchs qui ont eu lieu précédemment, qui étaient tous en cinquième vitesse. Là, forcément, ouais, vu les gabarits, c'était du catch un peu plus on te tape, on te travaille, on fait quelques clés. Mais sur la fin, donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a McIntyre donc, qui fait son claymore kick, hein, cette espèce de gros coup de pied où il s'envoie tout son poids. Il tente de le tomber et Bobby Roode touche avec son pied la dernière corde. Donc, du coup, c'est raté pour le challenger. Roode qui est complètement KO, qui roule en dehors du ring. McIntyre qui veut aller à l'extérieur, l'arbitre qui fait non, on ne va pas à l'extérieur, je vais le compter pour disqualifier. Bien entendu, McIntyre qui dit fuck you, qui saute, qui prend l'appui en courant dans le ring sur les cordes et fait un somersault dive à travers la troisième corde à l'extérieur. Alors, ce genre de mouvement, on le voit faire par des Sami Zayn et Kalisto, mais par quelqu'un de la taille et du cabaret de McIntyre, c'était un truc de fou, quoi. Et donc il réussit avec ça à remettre Bobby Roode dans le ring. Il essaie de faire encore sa claymore pour clore le match, mais Roode l'attrape avec son spine buster et ensuite il enchaîne avec un glorious DDT, son finisher, mais McIntyre le bloque. Il essaie de faire le tomber sur Bobby Roode, mais Bobby Roode s'en échappe. Bobby Roode finalement arrive à faire son glorious DDT, mais il l'attend pas, il n'essaie pas de faire le tomber, il roule pour essayer de lui faire un second, mais c'est à ce moment-là que justement McIntyre arrive à se dégager avant le troisième Glorious DDT et fait son claymore kick et devient le nouveau champion. Là aussi, la streak d'invincibilité, c'est beaucoup d'invincibilité hein, ce soir en série, ben celle de Bobby Roode est terminée. Drew McIntyre est le nouveau champion NXT après 23 minutes bien violentes. Là, le show va s'arrêter, mais non, il y a donc Bobby Fish et Kyle O'Reilly, hein, donc Red Dragon, ceux qui sont venus tabasser les champions de tag team qui reviennent. On sent une tension, Drew McIntyre les regarde disant « What the fuck, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes une équipe, moi je suis le champion. » Et c'est là qu'il se fait attaquer, non pas par les deux, mais par un troisième rôle, une troisième personne. Adam Cole, baby, il est là, oui, Adam Cole, là aussi quelqu'un, un gros champion de la Ring of Honor, qui a aussi été membre du Bullet Club à la New Japan, arrive, tabasse avec ses deux potes, effectivement, Drew McIntyre, prend la ceinture, fait passer le message, genre, je viens pour ça, relâche, méprisant la ceinture sur Drew McIntyre, et les trois anciens champions de la Ring of Honor en équipe et champion ultime sont là, sont forts dans le ring. Est-ce que c'est l'arrivée enfin de cette faction dont on murmure sa présence, la faction Ring of Honor, Ringside? Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée donc, d'Adam Cole dans le jeu NXT à la WWE?
Pouvait pas mieux, hein, franchement. Une arrivée comme ça, toute fin de show, casse la célébration de victoire de Drew McIntyre après un match marathon. Tout ça a coquiné avec les anciens donc de Red Dragon, donc une vraie faction tirée de la Ring of Honor. Je pensais pas qu'ils iraient jusque là. Donc du coup c'est la cerise sur le gâteau du pay-per-view qui était excellente facture tout du long. Et en plus t'as une surprise comme ça à la fin, un truc qui te relance, t'as envie d'aller regarder la suite. Après espèce de crossover intercompagnie, c'est quand même assez c'est bien, c'est ce qu'on aime voir, c'est ce qu'on veut voir depuis longtemps, et voilà, ils nous l'ont offert là ce week-end. Adam Cole, donc trois fois champion je crois de la Ring of Honor, et du charisme de bout en bout. Il a peut-être un physique un peu léger pour la WWE, mais voilà, avec une arrivée comme ça, il est déjà survendu avec un clan derrière lui, ça va être un mec qui va être très très dangereux dans le roster. Le match en lui-même, donc match marathon avec deux styles qui se ressemblent un peu, hein, Drew McIntyre et l'ami Bobby Roode. Physique incroyable de Drew McIntyre.
Il était aussi grand la WWE. Il a grandi.
Il a grandi.
Il s'est développé. Il s'est développé en masse. Il est vraiment imposant.
Ouais, monstrueux. Aussi, Bobby Roode, il est affûté comme jamais. Du coup, ils ont fait. Effectivement, il y a eu peut-être un petit moment de mou dans le match, mais alors sur le finish, ils ont fait ça. C'est pas des matchs comme ça à la TNA, hein, je vous rassure. Et donc, du coup, c'était un main event qui était vraiment très très bon. Drew McIntyre, c'est un bon babyface. Il a vraiment le physique qu'il faut. C'est le total package. Voilà, il repart sur une rivalité avec ce team ROH. On est hypé pour la suite et on a vu un bon main event. Voilà, moi pour moi c'était du caviar, hein. C'était vraiment très très bon.
Et toi, Irem, hein, du caviar aussi, ce match, ce gros mastodonte, hein.
Ouais, alors je suis. En fait, j'avais un peu peur parce que les main events de NXT mettant en avant, enfin mettant en jeu la ceinture, la division masculine, m'ont tous quasiment déçu depuis les 3 ou 4 derniers. Les matchs Bobby Roode contre Nakamura, il était déjà plus là. Et là, en voyant effectivement Bobby Roode versus Drew McIntyre, alors que je suis vraiment, enfin, Drew McIntyre, l'histoire est fantastique, hein. Vraiment, c'est un retour formidable et les monteurs sont à cœur joie pour cette, c'est une magnifique histoire. Mais j'avais un petit peu peur parce que notamment, tu en as parlé, hein, c'est quand même deux styles assez proches. Mais putain quoi, quel changement, enfin quelle évolution, c'est on se croirait dans les Pokémon là, quand tout d'un coup t'as ton petit j'ai pas d'exemple en tête parce que ouais, je suis pas tombé dans la hype du Pokémon sur mobile là, mais voilà, tu passes du petit, voilà, c'était devenu et il y avait cette promo où il disait Bobby Roode avait dit toi qui étais peut-être chosen, mais que c'était lui le one, et vendu. Donc c'était magnifique quoi, de jouer là-dessus. Donc magnifique construction, et puis ouais, quel gabarit. Il nous a sorti des moves, notamment voilà, ce saut à l'extérieur du ring. Enfin, je crois que personne, tout le monde pensait qu'il allait, je sais pas, trébucher avant ou juste faire semblant, mais quand il l'a fait, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord, c'est bon, ok, là, enfin, crédible comme les gens parfois comme les smart détestent comme le terme, mais il fait un super champion face. Cette petite voilà, cette petite attaque en plus à la fin va l'aider un petit peu auprès du public à asseoir son rôle de babyface, justement parce que c'est pas facile, hein, de prendre de la pop auprès de Bobby Roode. Pour autant, durant le match, ça jouait, allez, peut-être 60-40 quoi. Le public, il arrive quand même à attirer. Je pense que les gens, que le public, comme nous en fait, qui l'avons connu son moment de disgrâce avant de partir, on est content de le revoir comme ça en fait, en pleine forme, et surtout on sent vraiment qu'il a changé. C'est pas, enfin, le tu acceptes, enfin, par rapport à un mec comme Jinder Mahal, parce que la comparaison, elle se tient évidemment, hein, parce que je vous rappelle que là, on enregistre, on a quand même Drew McIntyre champion NXT et Jinder Mahal champion de la WWE.
Oui, MB, mec, qui aurait pu imaginer il y a 5-6 ans que les trois tocards de 3MB, il y en a un qui aurait été champion tag team, donc Heath Slater, premier champion tag team de SmackDown Live, l'autre champion de la WWE mondiale et l'autre champion de la NXT. Mais jamais, jamais t'imagines ça, quoi.
Va-t-on vers un fatal five-way avec Heath Slater qui entre parmi les quatre Golgoth, là? Mais c'est l'histoire est fantastique quoi, vraiment c'est super, et j'ai kiffé la cornemuse. Ils ont réussi à faire de la cornemuse un instrument badass pour l'entrée de Drew McIntyre.
Avec le look total barbare de McIntyre, c'était génial. Alors du coup, je rebondis sur ce qu'on disait au début de ce podcast Ringside sur la place de Roderick Strong dans tout ça, parce que Roderick Strong, donc effectivement, qui était en train de parler à Kurt Angle, Roderick Strong est lui aussi un ancien gros champion d'ROH, Ring of Honor. Alors est-ce que le fait que là maintenant il y ait Bobby Fish et Kyle O'Reilly qui ont officialisé le fait qu'ils reformaient leur tag team de ROH et l'arrivée d'Adam Cole, est-ce que du coup, bah, c'est une feud en adversité trouvée pour Roderick Strong qui va être le côté face des anciens ROH, les entendez les gars, vous pouvez pas faire ça, ou est-ce que Roderick Strong va virer sa cutie et tourner heel et faire une équipe avec eux?
Bah, bonne question, je ne sais pas. Mister ROH, Roderick Strong, ouais, bah ouais, bonne question, hein. Est-ce qu'il va se rejoindre ce clan, ou est-ce qu'il va jouer le face? Mais il n'est pas très bon en face, Roderick Strong, donc j'aimerais autant soit qu'il parte à Raw, aller vivre de nouvelles aventures, on l'oublie, ou alors qu'il rejoigne le clan. Alors là,
Faut
ça va
pas
être un
qu'il
clan difficilement battable.
faut pas qu'il parte à Raw, hein, Roderick Strong. Pour moi, ça fera pas avec un Teddy Dillinger ou autre. Le mec super bon dans le ring, etc., mais très moyen au promo, et son personnage n'est pas encore construit. Là, il commence à être construit, mais juste autour, cristallisé autour de sa rivalité avec Bobby Roode. T'enlèves Bobby Roode de l'équation, il y a plus de personnages de Roderick Strong. Donc soit il reste, à mon avis, il faut qu'il reste à NXT, soit en se reposant à ses ex-collègues de la ROH, soit en les rejoignant, mais il faut pas qu'il bouge.
Non, parce que là, il a quand même un gimmick de papa qui est de retour de congé paternité, donc
c'est ça.
Hey, non, je me bats aussi pour mon fils.
C'est ça.
Et t'as manqué de respect à ma femme. Je vais rien passer.
Tout ça pour perdre.
Ouais, tout ça pour perdre. Ouais.
Donc, notons que Bobby Roode refuse toujours de tricher. Hein. Il a encore fait un match clean de chez clean du début à la fin. Et c'est, on a toujours demandé d'avoir un heel comme ça qui soit dominateur sans être four. Ben, on l'a là avec Bobby Roode. Ouais. Hein. C'est.
Ah bah l'affiliation avec Triple H elle est tellement évidente que effectivement ils font partie de ces champions qui peuvent démonter des babyface dans les règles de l'art sans
même
une
pas
seule...
une fourchette dans les yeux, rien du tout.
que dalle.
Limite le mec allait relever son adversaire, dire l'encourager et tout.
Tu peux le faire.
Alors mes chers, maintenant c'est le moment qui va être très dur là cette fois-ci, hein. En tout cas pour moi ça va être extrêmement dur. Le mot de la fin, votre top, votre flop et une note.
Vas-y, IRM.
Merci, c'est trop sympa de me jeter dans la cage au lion.
Démerde-toi.
Alors, bah écoute, mon top, parce que là, je l'ai en tête, c'est chaud, on vient d'en parler, c'est Drew McIntyre. Drew McIntyre, parce que j'ai adoré l'histoire et il m'a surpris. Physiquement, il m'a surpris. Et dans le ring, il m'a surpris. Clairement, c'était pas le meilleur match de la soirée. C'est peut-être même le moins bon des 5, si vraiment il fallait comparer. En tout cas, c'est pas le meilleur à mes yeux. Mais l'histoire est trop belle pour que je lui donne pas mon top. Mon flop, il y a pas de flop quoi, à la limite, allez, mais c'est vraiment un flop. Ça, je dirais, où est la ceinture UK, j'aurais bien aimé voir Pete Dunne, voilà.
Il est blessé, Pete Dunne.
Ah bah voilà, bah mon flop c'est la blessure de Pete Dunne. Non mais c'est, voilà, c'est tout. Et puis ma note c'est un 4,5 quoi. C'est un 4,5 sur 5. On est à ça de donner le... Je suis presque tenté de donner un 5, mais comme il n'y avait pas Pete Dunne et qu'il est blessé, bah voilà.
Voilà. Okay.
Très bien, c'est enregistré. C'est ringside. Tôt.
Alors, mon top, je vais le donner au booking en général, booking intelligent, simple et efficace, tout au long du pay-per-view, tout au long du show. Ça fait plaisir de voir des trucs qui sont pas tirés par les cheveux, des choses qui sont cohérentes, l'action d'un manager comme ça qui jette juste un t-shirt, tout ça tient la route. Le booking du match tag team, c'était aussi très intelligent. Le finish avec l'intervention du clan Ring of Honor, c'était ce qu'il fallait pour terminer le show. La victoire de Drew McIntyre, Asuka qui conserve, bien positionnée comme quoi elle est vraiment un monstre. Donc voilà, il n'y a rien à acheter au niveau du booking. Le flop, c'est plus délicat, mais je vais le donner à Bobby Roode, mais parce que sur le spot où Drew McIntyre s'élance par-dessus les cordes et qui fait son
stunt,
il ne le rattrape pas.
Il lui fait une mise.
Donc il lui a fait une slim snooka sur l'Undertaker. Ouais. Donc ça c'est vraiment le seul petit point noir. Mais bon, c'est pas. Heureusement qu'il a survécu. Drew McIntyre a survécu. Je pense que ça a courté peut-être un petit peu sa carrière. Mais c'est le seul point noir du show. Et moi je vais mettre 5 étoiles. Hein. Je suis désolé. Hein, pour moi c'était pay-per-view. Il n'y avait rien acheté. Donc je mets les 5 étoiles. C'est ce qu'il faut. Quand c'est bon comme ça, quand il n'y a rien à acheter, moi je mets les 5 étoiles.
Très bien. Le top, j'aurais presque pu dire ce qu'a dit Ring, notamment que c'était bien fait. Il y avait plein de matchs qui n'étaient pas avec des histoires ultra complexes, mais qui marchaient. Et ils ont réussi à raconter plein de trucs dans tous les matchs et tous les segments du show, donc c'était juste nickel. Je vais le mettre en fait à l'intelligence de WWE pour le coup. C'est rare qu'on fasse ça, mais je le fais parce qu'il faut reconnaître. C'est en jouant la carte à fond avec cette stable, cette équipe ancien Ring of Honor. Parce que là, c'est juste vraiment, on met en avant une trinité qui a existé dans une fédération concurrente. Ring of Honor, c'est numéro 2 en fédération américaine. Hein. Et donc là, de jouer la carte de ça, c'est faut avoir les balls de le faire. C'est un pari couillu, risqué, et ils nous habituaient pas trop à ça. Et là, vraiment, reconnaître vraiment les talents indépendants, les trucs qui marchent indépendants, et ne pas vouloir les dénaturer et le faire découvrir au public de WWE, c'est ils sont foirés de nombreuses fois par le passé. Ils ont, a priori, du moins sur NXT, retenu la leçon, donc chapeau. Le flop, il faut en trouver un, c'est chaud, mais ça va être l'absence, je regrette, des des feux d'artifice, où sont passés les feux d'artifice à WWE, on n'en voit pas. Même Andrade et Cien Almas, normalement, quand il s'agenouille derrière lui, il a deux chandelles qui font comme ça. Bah là, elles étaient sur l'écran de LED.
Oh, c'est fini les pyros, c'est fini.
C'est fini la pyro, et c'est dommage, ça se moque la pyro.
Annulé comme Talking Smack.
Voilà. C'est ça. J'espère qu'on aura pour SummerSlam au moins. Et la note, ben, du coup, je vais dire le 5 aussi, parce qu'on avait 5 matchs, ouais. qui étaient bons, qui étaient pas parfaits, bien entendu, mais qui étaient juste, y a rien acheté, quoi. 5 matchs, ils nous ont fait 2h30, c'est passé, comme une lettre à la poste, c'était juste,
donc en fait, je passe pour le gros radin de la bande, là.
C'est dur, moi, je trouve. Exactement. Donc voilà pour ce NXT TakeOver Brooklyn 3. Ben, on a hâte que vous nous disiez aussi, les petits amis, ce que vous en avez pensé. Vous avez été aussi emballé que nous ou pas? Vous êtes plus Team 475, Tiedas comme IRM ou 5 comme nous?
Tiedas.
Vous pouvez nous retrouver.
Mais tu sais, c'est comme donner un 10 à un jeu vidéo, toi, 10 sur 10. Mmh. C'est difficile.
Ouais, tu fais un 9,90, comme ça, c'est en dessous de la barre des 10, c'est psychologique, tu vois. C'est
bon, allez, 4,75 si vous voulez, mais j'irai pas plus haut.
Ouais, on est à ça du 5.
S'il y avait eu des pyros, c'était bon.
Oui, c'est vrai.
On chie avec leurs économies de toute chandelle.
Exactement. Quand on est à regretter que Flop, c'est l'absence d'un mec. Parce qu'il est blessé et qu'il n'y a pas de pyro. Franchement, on peut dire que c'est 5. Oh, merde, tu déconnes. Ben voilà, donc sinon ben, vous pouvez nous retrouver évidemment sur toutes les plateformes, sur iTunes, sur Podcloud pour l'audio, sur YouTube pour la vidéo, sur Twitter et sur Facebook avec donc, le nom Catch Up CDC. Laissez-nous des commentaires si vous pouvez, des pouces si vous pouvez, les étoiles si vous pouvez. Bref, dites-nous si vous aimez ça, partagez-nous vos avis. Bientôt, les prochains rendez-vous, c'est quoi? Bah, forcément, ça va être une grosse analyse de SummerSlam, hein. Là, on enregistre, c'est dimanche, donc c'est demain qu'on va pouvoir le voir. Et bien sûr, il y aura les Raw et SmackDown juste après. Est-ce qu'on aura droit à un shake-up? Est-ce qu'on aura droit à des arrivées surprises, des NXT, des transferts? On sait pas. Le seul moyen de savoir, bah, c'est de vous abonner, de savoir ce qu'on va raconter, ce qu'on va résumer. C'est le moyen le plus simple. D'ici là, Ringside IRM, merci beaucoup d'avoir partagé cette review exceptionnelle de ce show exceptionnel. J'espère qu'on aura d'autres comme ça. J'ai un peu un doute pour SummerSlam, mais bon, on croise les doigts.
S'il n'y a pas de pyro, ça va être dur, SummerSlam.
Ils ont intérêt à avoir des pyros.
Alors moi, mon top de SummerSlam, c'est qu'il y avait des pyros. Ouais, et puis, ben, les gens, passez un bon week-end plein de catch avec SummerSlam. Et à très bientôt. Salut.
Salut.
Ciao.